Bonjour à tous nos auditeurs fidèles et bienvenue à tous ceux qui sont de passage ou qui nous rejoignent sur les ondes de Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du sud de Toulousain. Et nous allons maintenant parler balade, promenade, excursion dans les Pyrénées. En effet, je suis avec un des spécialistes des randonnées dans les Pyrénées, l'auteur déjà de plusieurs ouvrages sur le sujet et que vous pouvez aussi retrouver dans les pages de Pyrénées Magazine. Il s'agit de Patrice Tesser Dufour qui vient de voir éditer son dernier livre aux éditions Sud-Ouest. 28 balades pour découvrir les Pyrénées en famille ou entre amis dans la partie est de la chaîne Pyrénées Orientales Aude Ariège. Patrice, bonjour.
Bonjour Bruno.
Alors, un nouveau livre de balades sur les Pyrénées, quel angle as-tu choisi cette fois-ci ?
Je propose 28 randos dans les Pyrénées, mais sur l'est de la chaîne, donc sur les Pyrénées Orientales, sur l'Aude et l'Ariège. Et c'est vraiment des balades familiales que j'ai pu tester ces dernières années. En famille, donc avec mes enfants, avec mon père, avec ma femme, et on a fait vraiment toutes sortes de balades. Donc il y a des balades patrimoniales, des balades autour de lacs, des balades pour aller découvrir une petite chapelle, et d'autres balades assez insolites. On va en parler un peu plus tard.
Donc tu pars des Pyrénées orientales vers l'Aude et vers l'Ariège, donc d'est en ouest, c'est bien ça?
En gros, c'est ça, ouais. On part quasiment de Collioure. Moi, j'ai décidé de vous proposer une balade carrément dans le village de Collioure, donc dans la baie des Anges, comme on la surnomme parfois. Et en fait, vous allez découvrir les plus belles maisons de Collioure. Vous allez découvrir des petites chapelles, le couvent des Dominicains, le musée Pesquet, le Fort Saint-Elme. Voilà, plein de beaux endroits de patrimoine, et même la maison où Matisse, le peintre Henri Matisse, a habité. Et c'est vraiment assez original à chaque fois. Donc voilà, il y a plein de choses à voir. Donc on part du bout des Pyrénées Orientales et on va aller jusqu'au bout de l'Ariège, c'est-à-dire jusqu'au bout du Couserans.
Tu dis que ce sont des balades familiales. C'est vraiment fait pour tout le monde ?
Ah, c'est vraiment familial. On est parti, par exemple, la deuxième balade, c'est la traversée de la Serre de Vingrau. Vingrau, ça se trouve pas très très loin de Tautavel, donc on est au début des Corbières, au sud des Corbières, côté Pyrénées-Orientales. Cette balade-là, en photo, par exemple, il y a un copain, mais il y a aussi mon fils. À l'époque, il a 6 ans, il n'a pas spécialement fait de préparation sportive avant, et il a pu faire toute la traversée de la crête. Et la traversée de la crête, c'est 2 heures de balade un peu en hauteur, parce que c'est un chemin assez large sur cette crête calcaire. Et après, il y avait une heure de remontée pour récupérer la voiture. Et c'est vraiment très très chouette. Il y a que des balades faciles, aucune préparation physique à avoir. Par exemple, une année, on a fait une balade avec un âne autour d'Aigne, en Cerdagne, dans les Pyrénées-Orientales toujours. Et là, on est parti à pied et les enfants, au fur et à mesure de la balade, se sont reposés sur l'âne si vraiment ils étaient fatigués. À l'époque, j'avais quoi, Alice 14 ans, Germain 10 ans, Madeleine 8 ans, Noémie 4 ans. Donc, il y avait vraiment pour tous les âges. Et il y avait vraiment aucune difficulté. Et puis, c'était assez sympa de partir avec un âne de bas qui vous porte votre sac à dos, enfin, vos affaires, quoi. Voilà.
C'est des randonnées qui durent combien de temps en moyenne?
Ben, il y a de tout. Il y a, on va dire, d'une balade de 1h30, très facile, avec peu de dénivelé, à la balade à la journée ou, voire 2 jours. Par exemple, ma balade la plus longue, c'est la couverture du guide. C'est une balade jusqu'au refuge de Bassiès. Il y a 800 mètres de dénivelé, donc c'est là. On va dire que c'est quand même la plus sportive, mais je l'ai faite avec mes enfants. Donc on part au-dessus d'Auluf-les-Bains, en Ariège, dans le Couserans, et on va passer une petite crête et on redescend de l'autre côté. On va dormir au refuge et le lendemain, en fait, on se retrouve sur ce grand plateau l'étang de Bassiès, qui est vraiment magnifique. C'est difficile de donner le temps. En fait, on a 7 heures en tout de balade, mais c'est étalé sur 2 jours, donc on peut pas dire que c'est quand même complètement fatigant, quoi. C'est le premier jour, on fait 3 heures, et le deuxième, on va marcher 5 heures, donc c'est quand même tranquille, quoi.
D'ailleurs, dans chaque présentation de balade, tu indiques un niveau de difficulté, une indication de durée, mais aussi des informations pratiques pour se loger ou se nourrir.
Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. À chaque fois, le but, c'est ça, c'est que c'est vraiment tout pratique. C'est quand même important de savoir où manger ou dormir, les autres randos dans les environs, et puis évidemment il y a toujours la carte qui est donnée pour bien se repérer. Ça veut pas dire, je le tiens à préciser, qu'il faut pas partir avec une carte IGN, une top 25, donc, c'est-à-dire une carte au 1/25 millième, c'est-à-dire que 1 cm ça vaut 250 mètres.
Les cartes de la série bleue.
Voilà, la série bleue, enfin, il y a série bleue et top 25. Série bleue, c'est la série qui est plus de piémont. Et la Top 25, c'est vraiment une série qui est couleur bleue aussi, mais qui est vraiment pour la montagne. Mais c'est tout à fait ça, Bruno. Ouais.
Toi, ces balades, tu les as toutes faites. Il t'a fallu combien de temps pour rassembler tout ça?
En gros, ça s'étale sur 2-3 ans. C'est pas des balades que j'ai toutes faites la même année. Et en même temps, c'était bien parce qu'on a toujours varié. Parce que l'intérêt, en fait, de faire des balades de randonnée en famille, ce que j'explique au début de mon guide, c'est qu'en fait, c'est d'ancrer de beaux souvenirs en mémoire, ensuite, pour se les raconter plus tard. Et c'est vraiment aussi de se dire, bah tiens, on va aller dormir au bord d'un lac, camper ou bivouaquer, faire un petit feu le soir, évidemment si c'est autorisé, puis aller caresser par exemple les chevaux du Carlit, aller découvrir des cachettes par exemple quand on fait le chemin du maquis de Picocel, rencontrer des bergers quand on va pas loin des orilles du Soulcem, dans la vallée du Vic de Sceaux en Ariège, ou alors connaître l'histoire des tailleurs de marbre à la carrière de Balassette dans le Couseran. Donc à chaque fois, il y a de belles histoires, il y a aussi donner l'autonomie, la débrouille aux enfants aussi, pour qu'ils arrivent à se repérer. Parfois, c'est eux, voilà, qui sont devant avec la carte. Si on y est sur 2 jours, et ben, c'est aussi, par exemple, le soir, quand on est au refuge de Bassiès, observer les étoiles, apprendre à repérer la grande ourse. Voilà. Donc, c'est toujours des, attiser la curiosité, en tout cas, de chaque fois qu'on fait ses échappées. Voilà. Se sentir plus libre. C'est quand même important.
Ces itinéraires, ils sont tous balisés?
Franchement, ils sont tous balisés. Il y en a aucun qui est, où il y aura des surprises. Il y en a quelques-uns qui sont un tout petit peu plus difficiles parce qu'il y a un peu plus de dénivelé, mais en général, ils sont tous très simples. Franchement, les 28 itinéraires sont balisés en jaune, c'est-à-dire ce sont des PR, des petites randonnées, ou alors on emprunte en partie le GR10 ou un tour de pays, donc ils vont être balisés en rouge et jaune ou en rouge et blanc, mais ils sont tous balisés et il y a 2-3 sentiers qui sont vraiment insolites. Moi, je dirais le sentier sculptural de Meyron dans les Corbières, où vous allez vous retrouver en train de partir sur une sorte de musée en plein air. Vous allez découvrir en fait 22 sculptures permanentes et 16 temporaires en plein air dans les Corbières. Donc ça, c'est vraiment un petit bijou de parcours parce que c'est très original. J'aime bien aussi le sentier d'Elteil, aussi dans les Corbières.
Et les deux que tu viens de citer sont les sentiers 13 et 14 sur ton livre, hein ?
Voilà, tout à fait, c'est ça. On va partir pendant 2 heures et on se retrouve dans une balade littéraire et bucolique dans les pas d'écrivain Joseph d'Elteil. Et on a plein de panneaux complètement délirants, de choses qu'il a vraiment écrites, hein, dans des romans qui ont été publiés. Et ce que tu rêves, fais-le. Voilà, chaque jour, je veux une heure de rire, une heure de cheval, une heure de folie, 24 heures d'amour. Il y a plein de petits panneaux qui égayent le sentier, ça vaut vraiment le coup. Et après, pour ceux qui veulent, c'est une baignade au Moulin de Ribotte. Donc là, on n'est pas très très loin, on est entre Duillac, sous Peyrepertuse et Quéribus. Et donc c'est la balade numéro 17, et cette balade, elle est vraiment très chouette. Vous partez, alors celle-là par exemple, j'ai faite avec mon père, on part de Duillac, et on va descendre en fait dans les gorges du Verdouble, et on peut, alors là, il faut pas oublier son maillot et sa serviette, et on se baigne carrément dans les gorges, et en même temps, ça vous évitera de payer le parking, 5 euros de parking si vous y allez en voiture. Donc ça, c'est le bon plan. Et il y a un autre bon plan aussi, c'est le tour du château de Termes, en plein cœur des Corbières. C'est la balade numéro 15 dans mon guide. Et cette balade, elle est très chouette parce que ça finit aussi par un coin de baignade sauvage dans les gorges du Terminé. Et ça vaut vraiment le coup. Voilà, vous avez des vues formidables sur le château de Termes. On fait toute une boucle autour du château. On est au début vraiment en crête et après on va descendre dans les gorges et on va les traverser. Et enfin, moi j'ai vraiment aimé ces parcours. Voilà. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi du patrimoine avec la chapelle de Lizard, la carrière de Balassette, les orilles du Soulcem dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a vraiment des beaux endroits surprenants. Donc allez-y.
Est-ce qu'il y a une saison particulière que tu recommandes pour faire ces balades dans les Pyrénées?
Alors ça dépend des endroits. Moi je dirais que pour l'Aude, quand vous allez faire des balades dans les Corbières, ça serait plutôt mai-juin ou alors septembre-octobre pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est vrai que juillet-août, c'est vraiment un gros cagnard à certains endroits et vous aurez beaucoup moins de monde dans les coins de baignade. Et après, dans les coins qui sont vraiment très très en montagne, moi je dirais que c'est beaucoup plus beau à l'automne. J'ai fait cette balade à l'automne, c'était septembre-octobre et c'était magnifique. Il y avait des couleurs somptueuses sur les forêts du Canigou, et ça valait vraiment le coup. La balade avec un âne, elle, par contre, elle peut se faire en été, parce qu'on est en Cerdagne, et sur les hauts plateaux, là-haut, il y fait frais, et on peut faire de très belles balades au frais, entre, allez, 22, 25, 26 degrés, et on va pas souffrir de la chaleur en été en Cerdagne Cap-Cyr, donc il y a aucun souci. Et en Ariège, c'est la même chose. Vous pouvez faire les balades en été et puis ça vaut vraiment le coup. Et même on peut les prolonger à l'automne aussi, quoi, voilà.
Et sur ces balades que tu proposes dans ton livre, il y a beaucoup de passages où on peut se promener tranquille?
On peut se trouver des endroits isolés, on n'aura pas plein de monde. Moi, je dirais que sur les 28, allez, il y en a peut-être 2, 3, 4 qui sont un peu plus fréquentés en été. On va dire le Picou, c'est sur les crêtes de la Barguillère au-dessus de Foix. Les étangs de Font-Argente, parce qu'il y a quand même du monde et que c'est un coin assez connu. Les étangs de Bastiès, et encore, parce que c'est sur le GR10, mais il n'y a pas du monde tout le temps, parce qu'il faut quand même y aller. Et puis, je dirais les étangs du Carlit, parce que voilà, c'est un coin qui est couru en été. Mais après, les autres, franchement, c'est des petites balades sympas et il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. Et le seul endroit où il y a du monde, évidemment, en été, c'est Collioure. Voilà, faut la faire en dehors de fin juin à mi-septembre et vous découvrirez Collioure que dans son jus et ça vaut vraiment le coup.
Alors, Patrice, avec ta grande expérience des Pyrénées, qu'est-ce que tu conseilles de prévoir dans le sac pour ces randos en famille quand il y a en plus des enfants?
Alors ça, c'est une très bonne question. Moi, je conseille plusieurs choses. Je conseille évidemment, ça va être des trucs basiques, hein. C'est la gourde remplie d'eau, la casquette, la paire de lunettes de soleil, un paquet de mouchoirs au cas où, une veste toujours de pluie coupe-vent et une petite polaire. Ça, c'est la base. Après, ce qui est important, c'est que l'adulte qui va accompagner les enfants, qu'il ait toujours une pharmacie avec lui, une crème solaire, une couverture de survie. Et aussi quelque chose d'important, sur l'est de la chaîne, il faut un tire-tique. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de tiques dans des endroits où il y a du bétail, c'est-à-dire des brebis ou des vaches. Donc, ou alors sinon, dans des sous-bois qui ont été vraiment parcourus par des cerfs, des biches, des chevreuils ou des sangliers. Donc, il faut vraiment se méfier. Et souvent, il y a des tiques aussi au bout des fougères. Donc, quand vous êtes dans des endroits où vous traversez des endroits à fougères, faites attention. Le soir, il faut vraiment s'inspecter, notamment au niveau des pliures des coudes, des genoux, ou des aisselles, entre les jambes. Il peut y avoir des tiques qui se sont glissées, même au niveau du nombril aussi, ça peut arriver. Donc, il faut toujours regarder. Voilà, c'est des petites taches noires ou alors il y a même des petites auréoles rouges, rosées. Voilà, j'ai dit tout ce qu'il fallait avoir vraiment dans le sac. Évidemment, un pique-nique quand on part à la journée, de bonnes chaussures.
Et comme chaussures, tu conseilles quoi?
Alors, on dit ouais, tige haute ou tige basse aujourd'hui. Alors franchement, depuis 2-3 ans, on fait des très bonnes chaussures tige basse, c'est-à-dire vraiment des chaussures de trail ou de rando légères, faciles, qui sont Gore-Tex, donc qui se protègent aussi de la pluie, où on peut traverser même des ruisseaux avec, on n'aura pas les pieds mouillés. Il y a même des chaussettes imperméables aujourd'hui qui existent, donc c'est un truc de fou. Franchement, ça m'est égal. Les enfants, ils ont parfois du mal, on va dire aller jusqu'à 12-14 ans, d'avoir des chaussures tige haute trop lourdes. C'est vrai que ça encombre. Le seul intérêt d'avoir une tige haute, c'est quand vous allez traverser des éboulis, c'est-à-dire sur des terrains un peu mal stabilisés, ou alors vous êtes dans des endroits complètement hors sentier avec des hautes herbes et il peut y avoir des serpents. Bah ouais, c'est mieux d'avoir des tiges hautes. Mais après, le reste du temps, des tiges basses, moi, ça m'arrive souvent de faire des balades encore dans les corbières ou des petites boucles même en montagne avec franchement des chaussures tiges basses, des bonnes chaussures de trail. Il n'y a aucun souci du moment qu'elles tiennent bien le pied, en tout cas que ce soit des chaussures où on est à l'aise, on n'a pas le pouce, on n'a pas le bout des pieds qui touchent, notamment en descente, pour éviter de se faire des petits onglets. Ça, c'est important.
Et tu vois encore des choses importantes à dire pour ces balades dans les Pyrénées?
Des choses importantes, normalement, voilà, on ramasse pas les fleurs. Par exemple, il y a mes balades on passe à travers le parc naturel régional des Pyrénées catalanes ou celui des Pyrénées ariégeoises. Bon ben voilà, on garde son chien en laisse si on en a un. On fait attention aussi quand on essaye de raccourcir certains itinéraires, parfois c'est pas le bon plan, parce qu'on peut se retrouver sur des à-pics. Donc essayez de rester sur les sentiers, d'être attentif au balisage, ça c'est important. Et puis de pas hésiter à faire demi-tour, si vous êtes confronté à un orage, si vous voyez qu'il y a un orage qui arrive, ben il faut renoncer ou alors aller s'abriter, faut pas essayer de faire n'importe quoi, voilà. On essaye aussi d'attendre les autres, voilà. Ça arrive parfois de perdre des enfants parce qu'il y en a un qui a fait un arrêt pipi. Vaut mieux, voilà, au moins l'attendre, parce que si on le loupe et que par exemple à la prochaine intersection tout le monde part à droite et que lui il sait pas où on est parti, il part à gauche, vous n'avez pas fini le jeu de piste. Donc le but, voilà, c'est de rester groupé en montagne et de toujours surveiller, de surveiller les autres en tout cas quand on est l'adulte et de faire attention à ce qu'on fait. Et on jette pas de cailloux non plus, parce qu'il peut y avoir des gens en dessous de nous. Donc on fait attention à toutes ces choses-là, voilà.
Tu parlais des fleurs à ne pas cueillir. C'est vrai qu'elles se font rares et qu'il faut les protéger. Comment on fait alors ?
Oui, tout à fait. Le mieux, voilà, quand on voit des fleurs, là on est dans la période des orchidées, il y en a partout, mais il y a en ce moment, il y a toutes les fleurs là qui sont en train de s'épanouir et de sortir de partout. N'en cueillez pas, c'est vrai que c'est mieux de les avoir en photo. De toute façon, en général, à la fin de la rando, elles sont fanées. Mais en général, voilà, on essaie de respecter la faune et la flore.
Patrice Tessier-Dufour, 28 balades pour découvrir les Pyrénées en famille ou entre amis dans la partie est de la chaîne, Pyrénées-Orientales, Aude, Ariège. C'est aux éditions Sud-Ouest, ça ne coûte que 10 euros. C'est un ouvrage 112 pages, rempli de conseils vraiment pratiques pour tous ceux qui veulent découvrir les Pyrénées en partant du côté méridional. Patrice, merci de ton temps passé avec nous. On te retrouve régulièrement dans les pages de Pyrénées Magazine. À très bientôt, parce que je sais que tu as d'autres projets de livres en préparation, dont une nouvelle édition de ton almanach des Pyrénées, et peut-être que nous nous croiserons sur les chemins des Pyrénées.
Merci beaucoup Bruno, et ben j'espère bien, en tout cas à très bientôt Bruno, au revoir.